Seigneur, merci pour ta parole qui est totalement suffisante pour nous conduire dans notre vie ici-bas, nous accompagner dans notre pèlerinage, Seigneur, dans l'attente de ton retour. Merci parce que par elle, tu nous révèles pleinement qui tu es, qui est le Fils. Et merci parce que, comme l'Épître aux Hébreux nous le rappelle, tu nous as parlé par le Fils. Et par lui, tu nous as tout dit, par son incarnation, par son ministère d'enseignement, son autorité, ses miracles, sa mort à la croix, sa résurrection et son ascension. Tu nous as tout dit. Merci pour ta volonté d'avoir scellé la parole, d'avoir la Bible, et qui nous permet de marcher sereinement, Seigneur, et de pouvoir te découvrir. Je te prie pour que tu nous illumines par ton esprit ce soir, que tu mettes la lumière, Seigneur, dans nos cœurs, dans notre cerveau aussi, pour que nous puissions comprendre ta parole et en tirer, Seigneur, la sève pour notre vie. En ton nom. Amen. Bien. Soyez les bienvenus pour notre premier volet sur la série de ces trois études bibliques qui avaient été introduites par la prédication de la semaine dernière sur les quatre premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Le slogan un petit peu qui va être le fil conducteur pour notre série d'études, c'est « Redécouvrez la suprématie de Christ pour renouveler votre foi ». Et c'est vraiment l'intention de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Comme je vous l'avais dit, c'est un petit peu le GIGN qui débarque avec le pied de biche et avec les coups de masse dans la porte, le bélier, ou à ses auditeurs qui sont en danger de s'écarter de la foi, il veut leur rappeler qui est Christ et la perfection de son œuvre. Et du coup, on va voir que l'auteur va en particulier s'appuyer sur les Écritures qu'il possédait lui à son époque, c'est-à-dire principalement l'Ancien Testament, et sa thèse qui est dans les quatre premiers versets, qui est que dans les temps avant, autrefois, Dieu nous a parlé de diverses manières et à plusieurs reprises par les prophètes. Et dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Et il va jongler sans cesse entre ce que Dieu a dit à nos pères et ce que le Fils nous dit, nous révèle, pour vraiment mettre en lumière qui est Christ. Alors, pour ça, je voudrais juste, avant tout, avant de rentrer proprement dans le texte et l'Épître lui-même, je dois rappeler quelque chose. Impossible de commenter tout l'Épître en 3 heures d'études bibliques. C'est pas possible. Vous avez vu la dernière fois, pour faire un commentaire même sommaire des 4 premiers versets, ça a pris 40 minutes. Donc vous imaginez, sur 13 chapitres, il nous faudrait vraiment beaucoup de temps, et pour moi c'est une vraie frustration, un vrai enjeu de savoir sur quoi je dois mettre la lumière ou pas. Donc probablement vous sortirez avec plus de questions et de frustration qu'en rentrant. Donc je m'en excuse d'avance. Deuxième chose, il faut faire une introduction de l'Épître, qu'on puisse comprendre d'une manière générale qui est l'auteur, à qui est-ce que ça s'adresse et quels sont les objectifs, etc. Et puis, il faut donner les clés de compréhension du texte. Et vous allez voir que d'un point de vue de l'interprétation, de la façon dont on va interpréter le texte, il y a une règle herméneutique, c'est le premier gros mot de la soirée, une règle herméneutique, une règle d'interprétation qu'il faut absolument comprendre, et je vais vous l'expliquer avant de rentrer dans les détails du texte. Et puis, on va examiner des passages en faisant de la loupe progressivement. Donc d'abord, on va voir le contexte général, ensuite on va revoir ensemble le plan en général de l'Épître, je l'ai vraiment simplifié au maximum pour qu'on garde une photo de ce que veut l'auteur, et puis on fera des zooms dans certaines parties dans certaines portions de texte de chaque partie pour voir dans le détail quels sont les arguments clés de l'auteur. Est-ce que ça vous va? D'accord? Donc on est vraiment dans une étude biblique, c'est pas une prédication, on va étudier, et je compte sur vous pour l'échange, je vais vous poser des questions, et puis ensemble on va débattre, et vous allez me dire ce que vous pensez, et toutes les questions sont les bienvenues. Alors, on est parti. Premièrement, la date de rédaction. C'est important parce que vous allez voir, il y a des enjeux théologiques derrière, des enjeux doctrinaux. Premièrement, l'Épître est cité en l'an 96 par Clément de Rome, qui était un des pères de l'Église. Si vous vous souvenez de notre cours sur l'histoire de l'Église, le premier volet, Clément de Rome était un des pères de l'Église et cite l'Épître aux Hébreux. Et on sait que dans son Épître, Clément, hein, un Clément, qui s'appelle un Clément, hein, comme un Timothée, enfin c'est l'Épître de Clément, un Clément cite l'Épître aux Hébreux. Et on est sûr que la datation de un Clément, c'est l'an 96. Donc forcément, s'il le cite, c'est que c'est avant. Donc on a une borne maximum. Maintenant, on a une borne de l'autre côté, c'est l'an 49, parce que l'auteur cite Timothée, qui est le compagnon de Paul au chapitre 13. Donc on sait déjà que Timothée est rentré dans le ministère aux côtés de Paul et qu'il est connu par les destinataires, par cette église, on va voir, qui se situe à Rome probablement. Donc les bornes maximum, c'est en gros l'an 50 à l'an 95, quoi. D'accord ? Mais on a une autre indication qui est précieuse et qui va nous aider à dater plus précisément cet épître, c'est l'an 70. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe en l'an 70 ? Jérusalem, destruction du temple. Et dans l'épître aux Hébreux, spécialement dans le cœur du chapitre 10 et de 8 à 10, et on verra même de 1 à 10, on progresse, on a l'impression qu'on monte à Jérusalem vers le temple. C'est tout l'épître conduit vers le temple et cette symbolique forte. Et on peut d'ores et déjà émettre des doutes que l'auteur fasse référence à la pratique des judaïques avec le temple, si le temple est détruit. Donc on présuppose que les pèlerinages au temple, les sacrifices sont encore de rigueur, puisque l'auteur s'appuie énormément sur ce qui se passe dans le temple. D'accord ? Donc l'an 70. Du coup, on fixe entre l'an 60 et l'an 70 à peu près la rédaction. D'accord ? Ça vous va ? Ok ? Ça, c'est la date. L'auteur. Alors, tout de suite, je vous dis, on ne sait pas qui c'est. Plusieurs hypothèses. Paul, mais la plupart des commentateurs disent que non, parce qu'il y a des très grosses différences dans le vocabulaire. Il y a une théologie qui est propre à l'Épître aux Hébreux, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, un petit peu chez Jean, on verra. Mais il y a vraiment, si on perd l'Épître aux Hébreux, vous allez voir, on perd vraiment quelque chose de très important dans la Bible. Et Paul est loin de cette doctrine-là, mais vous verrez, c'est très complémentaire. L'absence de salutation, les habitudes de Paul, et on verra que c'est plus un discours qu'une lettre dans les règles de l'art. Et puis surtout, au chapitre 2, verset 3, on y reviendra, l'auteur, je vais vous lire tout de suite, s'appuie sur le témoin, il parle des apôtres. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, etc., ce sont les apôtres. Et donc, l'auteur ne s'inclut pas dans le cercle des 12 plus 1. D'accord ? Donc, c'est un proche des apôtres, mais ce n'est pas un apôtre. Ensuite, une autre hypothèse, Luc, à cause des citations notamment, Barnabas, parce que c'était un Lévite, Barnabas, d'origine, de la tribu de Lévi, et vous allez voir, ça tourne beaucoup autour du sacrifice. Donc, ça a été une hypothèse. On ne peut pas l'affirmer. Apollos, c'est une hypothèse qui est arrivée à seulement lors de la Réforme. Ne vous inquiétez pas pour les prises de notes, je vais vous envoyer tous les PDF, enfin tous les PowerPoint en PDF, vous aurez tout, il s'est enregistré tout ça, donc tout va bien. Du coup, on ne peut l'identifier avec certitude, mais on sait plusieurs choses. C'est un juif helléniste, donc de culture grecque, hein, un chrétien de deuxième génération, c'est-à-dire pas un des premiers cercles de disciples de Jésus, mais un disciple de disciples. D'accord ? Donc l'an 60, c'est tôt, hein, il est contemporain aux apôtres. Mais c'est un disciple de disciples, comme on l'a vu déjà. Et puis, c'est quelqu'un qui a une grande instruction théologique et rhétorique. L'Épître aux Hébreux est vraiment un bijou littéraire. Il y a quelques épîtres dans le Nouveau Testament qui sont d'un point de vue grec, vraiment des choses très sommaires, très très simplistes. Mais là, l'auteur vraiment maîtrise sa langue à la perfection et il joue avec les mots. Il imbrique dans le texte des citations qui renvoient à d'autres citations, etc. Enfin bref, c'est, dans l'argumentation, c'est quelque chose d'extraordinaire, et dans la forme aussi, c'est à la base un discours. Vous avez vu la prédication il y a une semaine de cela, il commence directement, il n'y a pas de salutation, il pose sa thèse, et donc on pense que c'est probablement un discours qui a été à la suite peut-être mis sous écrit et auquel on a rajouté à la fin des salutations. Et puis, il cite beaucoup la Septante, donc L et XX, hein, c'est 70 en chiffre romain, c'est ce qu'on écrit en général pour définir la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament. Il ne cite pas l'Ancien Testament dans sa langue d'origine, qui est l'hébreu, mais il la cite dans le grec. D'accord ? Donc c'est une particularité aussi de l'épître aux Hébreux. Et puis, probablement, on le voit au chapitre 13, verset 24, j'y vais rapidement, des chrétiens de Rome, « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. » Donc, Romain, l'auteur, probablement, peut-être ou pas, italien, on ne sait pas trop, en tout cas Paul est déjà passé par là, la région a été christianisée, mais on n'en sait pas plus, on ne peut pas trop affirmer. Et probablement, alors c'est plusieurs hypothèses de commentateurs, c'est des chrétiens romains. D'accord ? D'arrière-plan juif, on va le voir, les destinataires. Probablement composite, c'est-à-dire qu'ils naissent, contrairement à ce que le titre de l'hébreu pourrait nous faire croire, l'épître aux Hébreux, qu'ils sont tous hébreux, probablement qu'il y a des juifs, mais aussi des non-juifs, d'arrière-plan non-juifs, hein, grecs, romains, etc. Donc mélangés, mais avec une dominante quand même de juifs. Bonne connaissance de l'Ancien Testament. Très bonne connaissance de l'Ancien Testament, et vous allez le voir, nous, pour comprendre les citations, il nous faut faire un travail justement d'herméneutique très important, alors que probablement pour eux ça devait tout de suite faire tilt, ils devaient comprendre ce qui leur était dit beaucoup plus facilement que nous, en particulier du Pentateuque et des Psaumes, mais aussi des livres historiques, vous allez voir, il y a un bon nombre de citations. Et puis ils sont de langue grecque exclusivement, puisqu'ils citent en particulier aussi donc l'Ancien Testament en grec. Et c'est une communauté qu'il connaît. Plusieurs fois, on va le voir dans la façon dont il s'adresse à eux, on voit que ce sont des gens qu'il connaît. Une église qui existe depuis les apôtres, donc qui a plusieurs générations déjà de disciples, je l'avais dit dans la prédication, et qui a des points forts et aussi de grandes faiblesses d'un point de vue théologique. Et quand il y a une faiblesse théologique, forcément, nécessairement, derrière, il y a une faiblesse dans la piété, une faiblesse dans la foi, une faiblesse dans l'ecclésiologie, une faiblesse dans la façon de vivre sa vie chrétienne, tout simplement, puisque nous fondons notre vie chrétienne sur notre connaissance de Christ. Si notre connaissance de Christ est erronée, si nous avons une mauvaise théologie à propos de Christ, notre vie chrétienne est amoindrie. C'est ce que j'avais rappelé dans la prédication d'introduction. Alors, le plan de l'épître aux Hébreux. Alors, je vais essayer de faire une prouesse. Vous vous souvenez des quatre premiers versets. Ces quatre premiers versets forment la thèse centrale que l'auteur va développer au long des 13 chapitres. Le but est de défendre la théologie de Christ, on appelle ça la christologie, hein, encore un autre gros mot, défendre la théologie de Christ, mais aussi de donner des encouragements pour la foi des personnes de cette église. Alors, premièrement, dans les deux premiers chapitres, il leur dit qu'il est supérieur aux anges. Christ est supérieur aux anges. Et Jésus, ce Christ qui règne par sa parole. C'est les deux premiers chapitres. Ensuite, du chapitre 3 au chapitre 4, il va leur expliquer pourquoi Christ est supérieur à Moïse. Et pourquoi Christ est supérieur à Josué, Josué qui avait pour mission de conduire le peuple pour qu'il rentre dans la terre promise à la suite de la délivrance du pharaon égyptien. Moïse est celui qui a conduit pendant 40 ans le peuple à la suite de cette libération-là, qui en a fait véritablement un peuple en lui donnant la loi de Dieu. Et Josué, lui, prenait le relais pour faire rentrer ce peuple qui avait maintenant sa loi, qui était équipé, qui avait été éprouvé par Dieu, pour rentrer dans la terre promise et rentrer véritablement dans le repos de Dieu. Et vous savez que ceci ne s'est jamais réellement accompli. Mais l'auteur veut leur dire que Christ, lui, a accompli ça, cette promesse de repos, il l'a accompli pour nous, et c'est un repos qui est bien supérieur à ce que les autres, les destinataires premiers pouvaient imaginer. Et donc, il nous assure d'entrer, lui, dans la nouvelle création. Ensuite, du chapitre 4 au chapitre 7, il veut leur dire que Jésus est supérieur aux prêtres. Il est supérieur au système de sacrifice que Moïse avait instauré. D'accord ? Moïse, par Lévi, avait la tribu de Lévi, qui était mise à part pour ça, avait donné toutes les instructions pour que le peuple puisse avoir sa religion, offrir ses sacrifices à Dieu. Et là, il leur dit dans les chapitres suivants que Christ est supérieur à tous ces prêtres-là. Que eux, ils étaient prêtres selon l'ordre d'Aaron, de Aaron, mais que lui, il est supérieur encore à Melchisédek, celui qui était là avant Aaron. Et là, Melchisédek, on ne comprend plus rien. C'est quelque chose, il remet tout à l'envers. Et vous verrez, ça sera mercredi. Et puis, il continue, et c'est l'aboutissement pour leur dire que Christ est l'auteur d'une alliance supérieure à l'ancienne alliance. Une alliance qui est parfaite, qui est éternelle, qui est complète. Christ a accompli cette alliance pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il est notre prêtre éternel et parce qu'il a offert une fois pour toutes un sacrifice qui est parfait. Et donc quand on relit, vous voyez la phrase en jaune en bas, Jésus règne par sa parole, il nous assure d'entrer dans la nouvelle création, car il est notre prêtre éternel, parce qu'il a offert un sacrifice parfait. Conclusion ? Eh bien, tout simplement, il faut croire en lui. Garder les regards fixés sur Jésus. Et c'est les fameux chapitres 11 à 13, hein, 11 où il y a toute cette galerie de personnages historiques de l'Ancien Testament que l'auteur va prendre comme exemple de modèle de foi. Et puis, il va achever cette galerie-là en disant, mais nous, continuons la course, les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il est suffisant, il est supérieur. Vous avez compris ce que je vous ai dit, à quel point son salut est parfait, à quel point lui, il est souverain, à quel point son règne est sûr. N'abandonnez pas la foi, continuez. L'Épître aux Hébreux est une lettre fondamentalement pour nous encourager dans notre foi, même si ça nous demande au préalable des fois de se tordre un petit peu le cerveau dans tous les sens. Mais c'est pour nous encourager dans notre foi. Et regardez ceci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans chaque portion, nous avons un avertissement qui est en lien avec la foi. Ce n'est pas au hasard. Au cœur de chaque développement, l'auteur donne un avertissement solennel. Il encourage et il avertit. Il défend et il explique les implications. Et donc, dans la première partie, il y a un avertissement par rapport à la foi, qui est celui de dériver de la parole des apôtres, la parole apostolique, celle qui a confirmé celle de Christ, il faut rester attaché à celle-là. La deuxième, c'est de ne pas s'endurcir à cette parole, résister, comme le peuple qui résistait à la parole de Dieu lors de son pèlerinage dans le désert pendant 40 ans, sous la conduite de Josué. Et puis, il y a un avertissement par rapport au rejet de la foi, ceux qui carrément rejettent la foi. Et puis, un autre avertissement qui est celui de mépriser Christ en prenant, en gros, l'engagement de la foi, les implications de la foi par-dessus la jambe. Et donc, le dernier avertissement dans ce dernier développement, c'est le refus d'écouter la parole de Christ. L'auteur commence avec l'importance de la parole de Christ. Christ nous a parlé. Et il termine par cela. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que je vous ai perdu ? Ça va ? Est-ce qu'il y a une question ? Oui ?
On gère comment la Septante ? Parce qu'on utilise exclusivement le texte hébreu dans l'Église.
Oui ?
Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il faut la Vulgate ?
Alors, c'est une très bonne question qui mériterait un... Oui, alors je répète la question pour l'enregistrement. En gros, l'auteur utilise la Septante, alors que habituellement, c'est la version en hébreu qui est utilisée. La Septante, si je comprends bien ta question, c'est une traduction. Or, l'auteur l'utilise là dans l'Épître aux Hébreux comme il la considère comme étant inspirée. Il la cite telle quelle. C'est comme si nous, on écrivait et qu'en fait, on ne cite pas les textes originaux, mais qu'on écrit en français courant. C'est un petit peu ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut penser de la Septante d'une manière générale ? C'est la question, en fait, de la constitution du canon à partir du moment où on reconnaît que l'auteur inspiré à autorité et qu'il cite une version, et d'ailleurs, même dans la version hébraïque, il y a plusieurs canons avec des qui ne sont pas tout à fait pareils, plusieurs codex, on appelle ça, mais on va se calmer. Eh bien, quand l'auteur cite sa version, quand bien même ce n'est pas la version que nous avons habitude, on sait que lui le cite à propos. D'accord ? Et que le sens qu'il va, le sens qu'il va lui donner va être le bon sens pour nous. Et on retrouve la même chose avec Jésus qui parfois citait lui-même des proverbes païens. Mais parce qu'ils sont cités par Jésus, ils sortent de la bouche de Jésus et sont paroles de Dieu dans leur contexte, dit par Jésus, expliqué par Jésus. En dehors de ce contexte-là, ils n'ont pas de valeur. D'accord ? Donc c'est le fait qu'ils soient incrustés dans le canon du Nouveau Testament cité par les auteurs où on peut les prendre par autorité. Quand nous étudions les textes de l'Ancien Testament, nous allons, pour traduire, nous rapprocher au plus près des écrits que l'on a de originaux. D'accord ? On ne va pas prendre la traduction. Mais les traductions sont très intéressantes pour voir comment est-ce que les traducteurs ont compris, eux, et l'ont traduit dans leur langue. Donc c'est une langue morte qui est traduite dans une autre langue morte qu'on doit traduire pour nous. Et d'ailleurs, tous les commentateurs sérieux de l'Épître aux Hébreux font un travail de malade, parce que c'est une des épîtres les plus compliquées. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le texte cité par l'auteur, ils prennent la version hébraïque, ils prennent la version grecque, ils notent les similitudes, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas, et s'il y en a, ils regardent s'il l'a modifié exprès ou s'il l'a laissé tel quel et dans quel but. Mais bon, là, c'est des considérations vraiment techniques. Et voilà. Donc, ce que l'on voit dans le texte, c'est que, vous avez vu, nous avons autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières. Ce que va faire l'auteur, c'est qu'il veut démontrer que Dieu nous a parlé et qu'aujourd'hui, il nous a parlé par le Fils. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser ce qu'ont dit les prophètes dans chacune de ces parties. On va les retrouver dans toutes ces parties. L'auteur va utiliser son argumentaire, va le fonder, va l'étayer par ce qu'ont dit les prophètes. D'accord ? Donc il va donner une importance particulière aux écrits de l'Ancien Testament. Et ensuite, il va nous aider à comprendre comment est-ce que Christ règne aujourd'hui et l'implication que cela a pour nos vies. D'accord ? On y va ? Oui ? Alors, les objectifs de l'auteur. Premièrement, théologique. L'auteur a un objectif théologique, donc c'est une apologie, une défense de sa théologie, une défense de sa doctrine de Christ. Il y a une méprise sur la perfection de la nouvelle alliance pour un retour à l'ancienne alliance. Certains voulaient retourner sous l'ancien régime. Hein. C'est comme si nous, après la Révolution française, il y en avait quelques-uns qui disaient « Non, non, moi je veux retourner sous la royauté alors qu'on avait instauré la République. » Et il dit « Non, non, c'est pas possible, les gars. Il s'est passé quelque chose de très important, on reste dans ce régime-là. » D'accord ? Donc, la perfection de la nouvelle alliance est en jeu. La superficialité de la foi donnée pour ça, son remède, une compréhension supérieure de qui est Christ. Des influences doctrinales diverses, on ne sait pas lesquelles elles sont, en tout cas elles sont d'une nature différente que celle que Paul a pu rencontrer, mais pas de polémique interne due à des judaïsants. Vous savez, ce sont ces chrétiens, ces personnes qui s'étaient converties au christianisme et qui disaient que avant d'être chrétien, il fallait devenir juif. Avant de devenir un disciple de Jésus, il fallait se faire circoncire pour devenir un disciple de Jésus. Et donc, il y a notamment toute une contre-mission qui suivait Paul. Et on voit Paul, il arrive dans une ville, il prêche, puis derrière, il y a des Juifs et des Isans qui arrivent et qui mettent le bazar. Et Paul, après, doit réécrire parce que ces gars ont pollué l'église, etc. Et bref, c'était un petit peu une contre-mission. Mais en tout cas, ce n'est pas ça. Et puis, un encouragement parénétique, pastoral, c'est des personnes qui sont exposées à des persécutions diverses, qui ont peut-être honte du regard malveillant, c'est un argument qui peut être sous-entendu au chapitre 13, peur du regard des gens de l'extérieur de la communauté, hein, et c'est quelque chose qui peut nous toucher, nous, encore aujourd'hui. Et puis, l'importance de savoir si on a une vraie foi. Et je pense que ce point-là est très important pour nous, parce que nous, évangéliques, en France, on a une théologie de la conversion qui est souvent très, très superficielle. C'est un jour, tu as fait une prière dans ta vie, tu as demandé à Jésus de rentrer dans ton cœur, ben, tu es sauvé. Il n'y a aucun fondement biblique à cela. Parce que quelqu'un fait une profession de foi, est-ce qu'il est sauvé? Quelle est la marque du vrai croyant? L'Épître aux Hébreux nous aide à comprendre et nous aide à nous rassurer pour savoir si nous sommes dans la foi ou à nous examiner, nous remettre en question et peut-être vraiment nous tourner vers Christ. Mais c'est vraiment de l'encouragement. Et puis, la sécurité, du coup, c'est le pendant de cela, de savoir dans une vraie foi, c'est-à-dire que l'on a l'assurance du salut opéré par Christ pour nous à la croix. Et donc la vraie foi persévère car elle vient de Jésus-Christ pour l'auteur. Donc c'est une des choses qu'il va développer, c'est la persévérance de la foi dans les épreuves face aux fausses doctrines et dans la confession, dans la vie, dans la piété. Alors, pourquoi fallait-il que Jésus remonte au ciel? Eh bien, l'Épître aux Hébreux y répond. Que fait Christ actuellement pour nous? Il est notre roi, il est notre souverain sacrificateur, il est notre prêtre, actuellement. Que fait-il pour nous? L'Épître aux Hébreux y répond. Romains, par exemple, décrit, l'Épître aux Romains décrit la nécessité et la suffisance de la foi. Hébreux est totalement complémentaire parce qu'il décrit la supériorité de la foi. Je vous l'ai dit, beaucoup de références à l'Ancien Testament, 86, et avec une histoire qui monte, qui est ascendante de la révélation, et comme le dit Samuel Benetro, Christ projette une lumière, éblouissante sur tout ce qui, en fait, a préparé et annoncé son œuvre. Donc l'auteur, vraiment, va aller puiser dans les richesses de l'Ancien Testament pour faire briller Jésus. D'accord? Donc, en fait, bien connaître l'Épître aux Hébreux nous aide à bien comprendre l'Ancien Testament. C'est génial. Hein, en 13 chapitres, on n'a pas tout l'Ancien Testament, mais on a la grande ligne de l'Ancien Testament, hein, concernant le salut. Hein. Rapport à l'Ancien Testament, c'est-à-dire justement ces lignes-là, ces trajectoires qu'on peut tisser, on appelle ça de la théologie biblique, on voit comment l'histoire se développe au fur et à mesure. Il y a, on va voir, un principe très fort, et ça, il faut bien le comprendre, de continuité, discontinuité. Il y a des choses qui continuent, qui sont les mêmes, qui demeurent éternellement, qui sont immuables, et il y a des choses qui sont coupées, qui ne sont pas continues parce qu'elles sont dépassées par Jésus-Christ. Par exemple, le sacrifice. Il fallait qu'il y ait tout le temps des sacrifices parce qu'il n'était pas parfait. Christ, lui, offre un sacrifice parfait. Il y a rupture, nous n'avons plus besoin d'en offrir. Par contre, Christ dépasse ces sacrifices-là et continue de l'accomplir pour nous. Il est notre prêtre en ce moment même. Ressemblance, différence, il va beaucoup jouer avec ça. Supériorité, accomplissement. Et enfin, Christ est l'accomplissement typologique, c'est-à-dire que je vais vous expliquer ça, et je suis désolé, je vais prendre encore 5 minutes pour vous expliquer ça, parce que sinon, on se perd dans l'épître. Ce qu'on appelle la typologie est très important, parce que c'est quelque chose, si c'est mal cadré, on ne va pas comprendre. Je vous explique. Samuel Benetro, encore lui, dit, à propos de la typologie, ce sont les événements et les paroles de jadis, hein, dites avant le temps de Christ, laissées dans leur contexte premier, d'accord, on les interprète dans leur contexte premier, on les laisse dans leur cadre naturel, ces vérités-là, ces récits-là, en même temps, quand on les comprend dans leur contexte premier, nous annonce ce qui se rattache à la manifestation, à la venue de Christ ou à l'accomplissement de son salut. Peut-être ça vous paraît très hypothétique encore. La typologie reconnaît que le sens historique original est important et même fondamental, j'aurais dû dire. Elle dit qu'il est en rapport théologique avec l'antitype. C'est vrai qu'une fois que je le dis à voix haute, je me rends compte que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une réalité dans l'Ancien Testament et une réalité dans le Nouveau Testament, okay, et ça se fait écho. D'accord? Vous allez comprendre. La typologie, en fait, ça anticipe un accomplissement ultérieur qui trouvera en Christ sa pleine dimension. Donc, tu voulais tweeter, c'est ça. Je vais vous donner des exemples. Je finis ma définition et je vous donne des exemples. La typologie sert, alors là, peut-être que vous allez plus comprendre, à établir des trajectoires. C'est comme une... Vous voyez les antennes que vous avez sur les voitures ou les matraques télescopiques des policiers, hein, vous voyez ces antennes qui se télescopent. Eh bien, on a... Vous n'avez pas trop à faire aux matraques des policiers, c'est bien. La typologie, c'est ça. C'est qu'il y a un récit, un événement, quelque chose dans l'Ancien Testament. On n'en tord pas le sens. C'est le sens premier, c'est ce qui nous est raconté à ce moment-là. Mais on voit, on peut tirer dessus, en fait, une trajectoire. Et on va voir que dans le Nouveau Testament... Eh bien, il y a un accomplissement, ça signifie encore quelque chose de supérieur. Christ jette une lumière sur ce qui s'est passé là, et en fait, nous montre que ça le préfigurait, ça préparait à l'annoncer. Ok ? Je vais vous donner des exemples. Il y a des personnes dans l'Ancien Testament, par exemple, qui nous sont citées dans le Nouveau Testament, où il y a des allusions à leur histoire, qui sont des type de Christ, on appelle ça des types, donc c'est-à-dire des personnages qui ne sont pas Christ, mais qui d'une certaine manière, par un aspect de leur vie, préparent, reflètent Christ, mais Christ doit faire comme eux, mais en mieux. D'accord ? Christ est comparé au deuxième Adam. Là où Adam a chuté, Christ a triomphé, Romains 5. Okay ? Joseph, comme conducteur du peuple qui sauve son peuple, Christ sauve son peuple. Okay ? Moïse, et il viendra un autre prophète comme moi. Et on va voir que là, l'auteur compare Moïse à Jésus. Et dit Jésus, il est comme Moïse, mais en mieux. D'accord ? En gros, le personnage de Moïse nous aide à comprendre le personnage de Christ. Jonas, Jésus dit qu'il se compare à Jonas. Et franchement, quand on voit Jonas et son caractère, voilà. Sauf que il y a, dans la vérité, dans le contexte, on comprend que Jonas, c'est un loser, quoi, excusez-moi avec mes mots, il assure pas, il obéit pas, mais Christ, il obéit, et ce qui arrive à Jonas, c'est 3 jours dans le poisson, Jésus explique que ça préfigure ces 3 jours, sa mort et sa résurrection. Bon, il faut prendre le temps de développer ça. Ce fameux Melchisédek, un bon prénom, celui-là aussi, c'est un personnage, il tient 2 versets dans l'Ancien Testament. Qu'il soit là ou pas, on s'en fiche, ça ne sert à rien, Melchisédek. Il ne sert à rien. Mais l'auteur l'utilise pour nous montrer qu'il est supérieur à tout le système des sacrifices. Vous voyez ? David, Christ est appelé le fils de David, et c'est pas pour rien, nous allons le voir. Et puis voilà. Mais il y a aussi des événements. Par exemple, la sortie d'Égypte, la Pâque. C'est un événement qui prépare, qui illustre une libération d'un peuple qui prépare, qui illustre une vérité d'une libération bien plus importante, celle du péché. Il est notre Pâque, dira Paul. Le serpent des reins, Jésus l'utilise lui-même, etc. Des objets, l'autel des sacrifices, le temple, Jésus dit, moi je suis le temple. Vous comprenez ? Alors du coup, il faut se creuser la tête, se dire, attendez, mais à quoi ça servait le temple ? Qu'est-ce que c'était ? Pourquoi ? Et pourquoi Jésus dit qu'il est le temple, le lien avec le sacrifice, etc. Et du coup, quand on comprend ça, on se dit « Waouh !» Mais en fait, quand il dit « Je suis le temple », ça fait appel à plein de choses, c'est très riche. L'agneau, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Il compare un agneau, une fois un lion, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein ? Et puis des institutions des fêtes, les prêtres, les rois, les sacrificateurs, la fête de la Pâque, la fête des prémices, etc. trouvent un accomplissement qui est encore plus beau dans le Nouveau Testament. Je vous ai perdu ? Non, je ne vous ai pas perdu ? Eh bien, chapeau. Je passe très vite là-dessus. Il nous parle de Jésus principalement, de la personne de Christ, de sa suprématie, parfait, éternel, meilleur, sacrificateur. C'est des mots qui reviennent très souvent, des qualificatifs qui reviennent souvent. Et de son sacerdoce de grand prêtre. Okay ? Le système de l'Ancien Testament, en gros, était que l'esquisse de la réalité et ne pouvait venir à bout du problème du péché. D'accord ? Le système des sacrifices dans l'Ancien Testament, il ne réglait rien. Okay ? La réalité céleste attachée à la mort de Jésus qui a enlevé le péché une fois pour toutes. Les œuvres de Jésus, donc, dans son ensemble, l'œuvre de Jésus dans son ensemble, se résume par le parfait accomplissement de ce qui était inaccessible sous l'ancienne alliance, la purification des péchés. C'est le goulot d'étranglement, tout passe par là. D'accord ? Donc ça fait partie de la pédagogie de Dieu d'utiliser des événements, des personnes, des symboles, etc., pour nous dresser un portrait encore plus lumineux de Jésus-Christ. Alors, ce que je vous propose maintenant, après cette longue introduction, mais qui je pense était nécessaire parce que ça va nous faire gagner du temps, c'est que l'on fasse ensemble une lecture à partir de la moitié du verset 4, et je vous explique le plan un petit peu que l'on a. Premier bloc, vous vous souvenez du premier carré en bas à gauche que j'ai dessiné dans le plan, c'est ceci, Jésus est supérieur aux anges et il est l'homme ultime, notre représentant ultime devant Dieu. D'accord ? Donc, prenez votre Bible, chapitre 1, verset 5, et je laisse le plan. Une première partie, donc, où l'auteur va vouloir démontrer que Jésus, le Fils de Dieu, est supérieur aux anges. Je lis donc à partir du verset 4. « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » citation du psaume 2. Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » citation de 2 Samuel 7 où Dieu fait une alliance avec David et il lui promet qu'il y aura un trône éternel à sa suite. Et lorsqu'il dit de nouveau « Dans le monde, le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il est dit des anges, il fait de ses anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, d'accord ? Donc Dieu, hein, il a dit au Fils, hein, donc Jésus, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, autre citation. Alors vous voyez, déjà, je m'arrête. On rentre tout de suite dans une certaine difficulté. C'est que l'auteur dit, il est dit, il va piocher là-bas. Et puis il est dit encore, là-bas, là-bas. Et il prend des portions de versets en dehors de leur contexte. Et on ne comprend absolument rien, si ce n'est que, bon, il dit que Jésus est supérieur à toute chose et que Dieu l'appelle Dieu. D'accord ? Enfin, moi, ma première lecture, le texte reste assez mystérieux. Hein ? Et encore, toi, Seigneur, hein, autre citation, il en enchaîne sept comme ça. Tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Là, il reprend ce qu'il dit dans les quatre premiers versets. Vous vous souvenez ? Que tout a été créé par lui et pour lui. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Il est éternel. Auquel des anges n'a-t-il jamais dit ? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Donc, Jésus, Fils de Dieu supérieur aux anges, et puis tout de suite, il enchaîne, vous voyez, il y a un « c'est pourquoi » ou un « donc » peut-être selon vos... ou à cause de cela, selon vos versions, mais donc l'auteur lit ça avec un premier avertissement. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Quelles sont ces choses qu'ils ont entendues ? À votre avis, dans le contexte direct. C'est ce qu'il vient de citer. C'est tout ce qu'il vient de dire. Il dit, voilà, je vous ai dit tout ça. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il part du principe que, oui, ça fait tilt chez eux, parce qu'ils ont une bonne compréhension de l'Ancien Testament. Et il leur dit, donc, c'est pourquoi nous devons d'autant plus, si vous avez compris ce que je vous ai dit, vous devez d'autant plus vous attacher aux choses que vous avez entendues. Vous attacher à la parole de Dieu. D'accord ? De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Pour lui, il n'y a aucune hypothèse valable. Si on n'est pas amarré, on est comme un bateau qui va partir à la dérive. On se laisse emporter au gré des vagues. Il faut être amarré, s'attacher à la parole. D'accord ? Donc il veut les encourager à demeurer attachés à la parole, sinon ils vont être portés loin d'elle. Alors, avertissement pour nous. Demeurez attachés aux paroles de Dieu, sinon nous allons être emportés loin d'elle. Forcément, nécessairement. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, hein, première vérité, et deuxième vérité, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, une juste punition, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Ce salut qui nous a annoncé, si nous le négligeons, comment échapperons-nous à la punition pour nos péchés ? En gros, s'il est supérieur aux anges. Est-ce que vous comprenez ça ? Enfin, j'imite l'auteur qui veut leur parler. Vous comprenez ça ? Vous y ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur, hein, il nous a parlé par le Fils, donc d'abord par Jésus-Christ, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, donc les apôtres que je citais, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. D'accord ? Que dit l'auteur ? Vous vous souvenez ? Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Qui est-ce qui nous aide à savoir ce que le Fils a dit ? Qu'est-ce qui nous aide ? Le Saint-Esprit ? Il parle du Saint-Esprit, là ? De qui est-ce qu'il parle ? Qui est-ce qui a appuyé le témoignage du Fils, ce que le Fils a dit ? Les apôtres. Comment ? En appuyant leur témoignage par les miracles. Christ a délégué une autorité en particulier aux apôtres pour être les dépositaires de son témoignage. Et donc nous devons porter attention à ce que nous avons entendu, c'est-à-dire ce qui nous est annoncé dans l'Ancien Testament et ce qui nous est annoncé par les apôtres qui ont confirmé les paroles du Fils. Parce que souvenez-vous l'introduction, Dieu a d'abord parlé par les prophètes, donc il faut écouter, et puis il nous a parlé par le Fils. Et donc, il faut écouter ce que le Fils nous a dit. Et comment connaître ce que le Fils nous a dit ? Par le ministère des apôtres qui avait comme mission, c'est à la fin de l'évangile de Jean qui nous l'explique le mieux, d'être les dépositaires de son message. Et Christ confirmait leur autorité en leur donnant des dons particuliers qui attestaient de leur autorité comme étant délégués de Christ lui-même. D'accord ? Est-ce que ça va ? On continue. Est-ce qu'il y a des questions ? De compréhension, de vous êtes paumés. Pour le moment, on reste très, très superficiel. Hein. OK ? En effet, si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé sur le verset 5 du chapitre 1. En effet, ce n'est pas à des anges, à vous voyez, il revient aux anges. D'accord ? Donc on est toujours bien dans cette thématique des anges. Hein ? En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Alors, de curieuse façon, quelqu'un a dit quelque chose quelque part. Okay ? Quelqu'un a dit quelque chose ? Et là, il cite le psaume 8. Okay ? Ce n'est pas une situation hasardeuse. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. tu l'as abaissé un peu de temps au-dessous des anges. Christ, il nous démontre avant dans le chapitre 1 qu'il est au-dessus des anges. Et il ne veut pas dire que Christ s'est abaissé au niveau des anges. Non, c'est pire que cela. Christ s'est abaissé sous les anges. Il est venu pour les hommes, ceux qui sont nés dans leur péché. D'accord ? L'abaissement de Christ est encore pire que ce qu'on pourrait imaginer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte du premier siècle et dans la culture juive, les anges avaient une place très très importante dans leur spiritualité. Les anges étaient les médiateurs entre les hommes et Dieu. Vous savez que Moïse, sur le mont Sinaï, était entouré d'anges. Galates, Paul dit que la loi était donnée via les anges. Alors, il y a plusieurs interprétations à ça, mais en tout cas, les anges avaient une place particulière dans la spiritualité juive. Et là, il veut leur rappeler que les anges sont les instruments de Dieu pour exercer, pour accomplir son salut, et c'est le verset 14 qui nous le dit. Il les a envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous. D'accord ? Ils sont les instruments de Dieu pour notre salut. Mais Christ, lui, s'est abaissé au-dessous d'eux, chapitre 2, verset 7. Et d'un coup, contraste, tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu as mis toute chose sous ses pieds. En gros, il a été abaissé en dessous de tout et tu l'as élevé au-dessus de tout. Contraste très fort. Et souvent dans le Nouveau Testament, on a ces deux oppositions entre l'abaissement et l'élévation de Jésus-Christ. C'est très très souvent fréquent. C'est le résumé de ce qu'il a fait de sa mission de sauveur. En effet, donc il va expliquer, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Vous comprenez, hein ? Il a tout, donc il n'y a rien qui lui est pas à lui. D'accord ? Il parle à quel temps, l'auteur ? Vous constatez ? Au temps passé. Il parle de quelque chose qui est donc réalisé, accompli par Jésus-Christ. D'accord ? Il lui a déjà tout donné, donc il règne déjà. Ok. Bon. Maintenant, il va compliquer la chose. Cependant, verset 8, « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » Donc, toutes choses lui sont soumises, mais nous, on ne peut pas voir tout. D'accord ? On ne peut pas tout voir. Nous avons une connaissance partielle, une compréhension partielle de ce qu'il a réalisé à la croix. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, donc vous voyez ce qui a été dit au verset 7, il va le redévelopper. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, il précise, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Pourquoi nous le voyons couronné de gloire ? À cause de ses souffrances. Parce qu'il s'est abaissé. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Quelle phrase choquante, hein ? Par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il a souffert la mort à ma place. La mort qui m'était réservée, il l'a subie, lui, à ma place, sur la croix. Et pour cela, Dieu l'a couronné. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses... Ah, vous vous souvenez à quoi il fait référence ? Il vient de le citer déjà. Celui en qui il a tout fait et en qui sont toutes choses, verset 11 du chapitre 1, et qui est dit déjà dans le verset 2 du chapitre 1. C'est dans sa thèse. C'est quelque chose qui revient, qui rebondit un petit peu tout le temps pour nous rappeler qui est Christ. Celui qui a souffert à ma place, c'est celui par qui Dieu a tout fait, c'est par Christ qu'il a tout créé, et tout est fait pour lui. Lui, il a subi la mort à notre place. Il convenait en effet que celui par qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince du salut. Alors, regardez, Verset 9, la fin du verset 9, il nous dit qu'il a souffert la mort pour tous. Que sous-entend l'auteur ? Est-ce que Christ est mort pour tous les hommes ? Est-ce qu'on ira tous au paradis ? Dans ce sens-là, je pose la question. Non. On est clair. La Bible pose une condition, hein, c'est la foi. D'accord ? Donc pourquoi il dit tous ? Du coup, c'est un verset qui a perturbé beaucoup de personnes. Regardez, en fait, l'auteur va préciser sa pensée. Qui sont ces tous ? Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire la gloire beaucoup, de fils, est élevé à la perfection par les souffrances le prince du salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Que veut-il dire par là, à votre avis ? À propos de notre relation avec Jésus. Nous sommes appelés, comment nous sommes appelés ? Nous sommes appelés fils de Dieu et frères. Il nous appelle frères. D'accord ? Et que veut-il dire ? Celui qui sanctifie, qui est-ce ? Le Père ? Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, le Fils. Ok ? Entre le Père et nous, le lien, c'est le Fils. Nous sommes tous en Christ, d'accord ? Sanctifiés. Il est celui qui nous sauve, et dit qu'il est aussi celui qui nous sanctifie. Et le sens qu'on va voir, qui va le développer, c'est celui qui préserve notre salut intègre. Vous allez voir. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Mince, excusez-moi. Encore une citation, hein. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici et les enfants que Dieu m'a donnés. Les enfants, vous voyez encore ce terme-là, hein. Il y a des enfants qui sont donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Qui est-ce ? Hein ? C'est-à-dire le diable ? Hein ? Il explique. Donc, par la croix, il a rendu Satan impuissant. D'accord ? Il a détruit son pouvoir sur nous. C'est ça qu'il explique. Hein ? Et on revient au verset 8. Vous voyez ? Il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Tout, absolument tout, lui est soumis. D'accord ? Donc Satan a été défait à la croix par Jésus-Christ. Vous avez l'idée d'un autre texte qui nous parle de ça ? Épître de Paul, en particulier ? Colossiens ? Il a dépouillé et triomphé les autorités. Très ironiquement, Christ, sur la croix, régner avec sa couronne, et par la croix, il a dépouillé toutes les autorités. Il a tout accompli, c'est ce qu'il dit sur la croix, tout est accompli. D'accord ? Alors, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, donc il est rendu impuissant, mais rappelez-vous ce qu'il dit. Maintenant, cependant, nous ne voyons pas encore. C'est une réalité, il le dit, ça a été accompli, c'est passé, ça s'est fait sur la croix, mais nous ne pouvons pas le réaliser encore. Et ça, c'est une tension qu'on a tout le temps dans le Nouveau Testament. Déjà accompli, mais pas encore. Des réalités qui existent déjà encore, mais qui ne sont pas totalement révélées. Une attente encore pour le peuple de Dieu, que Christ revienne et parachève le tout. Ainsi, il délivre, et là encore on va avoir une précision parce qu'on a eu plusieurs fois les fils, etc., mais on a dit avant qu'il était mort pour tous, donc on va comprendre. Il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, aient toute leur vie retenue dans la servitude. Car ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, Hein, il s'est abaissé en dessous d'eux, mais ce n'est pas pour leur venir en aide à eux. Mais à qui ? La postérité d'Abraham. Vous voyez, il affine sa pensée et il explique vraiment. La postérité d'Abraham. D'accord ? Oui, une question ?
Mais là, ça veut dire quoi ? Tu penses que, comme disait Augustin d'Hippone, que Christ est mort que pour les élus ?
Alors, là, tu rentres dans la question de la prédestination et de l'élection. Alors, il est mort. Alors, écoute, c'est un sujet long, et je veux bien te répondre si tu veux à la fin, mais c'est un sujet qui est long. D'accord ? Oui. D'accord ? Oui. C'est... Oui ? Ah oui. Alors, est-ce qu'il y a des points dans l'Épître aux Hébreux où on peut établir clairement une différenciation entre le Père et le Fils ? C'est bien ça ? Oui. Dès le verset 5. Dès le verset 5, oui. Oui. Ça, c'est le verset 5, en fait, le but est ça. C'est ça le but. Ok, je finis juste jusqu'au chapitre 3. Ok ? Donc, car assurément, ce n'est pas à des anges qui lui en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc Christ vient en aide à la postérité d'Abraham. Et donc là, déjà, on fait un flashback où on se souvient que Dieu a promis à Abraham une descendance hein, qui l'aurait éternelle. Et quel est celui qui va permettre qu'il y ait cette descendance ? Quel est celui qui va sauver cette descendance, cette lignée ? C'est Christ. D'accord ? Donc, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères. Pour sauver ses frères, il reprend ce qu'il dit au verset 11 et au verset 14. Il a dû se rendre semblable totalement à nous. Et ça, c'est l'incarnation de Christ. Où Christ s'est humilié, où il est devenu le moindre des hommes, comme vous et moi, hein, un quidam qui est né au fin fond de Bethléem, quoi. D'accord ? Il s'est rendu en toute chose semblable à ses frères, d'accord ? Afin qu'il soit souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Qu'est-il venu faire ? Et là, l'auteur introduit la pensée qu'il va développer par la suite. Il est venu être semblable à nous et être un sacrificateur. Mais un sacrificateur parfait. Et on va voir ce que ça, les prochaines fois, ce que ça implique. D'accord ? Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et là, quelle espérance on voit pour nous, là-dedans ? Pardon ? Il peut nous comprendre, exactement. Et ça, il va être repris au chapitre 4, à partir du verset 15. Il va développer cette idée-là. Il a souffert lui-même et il a été tenté. Et il peut secourir ceux qui sont tentés. D'accord ? Donc, quand, au verset 17, il nous dit qu'il a été rendu semblable à toute chose, en gros, il nous dit que aussi, il a partagé toute notre humanité sans jamais défaillir. Et il est venu pour accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir. C'est ça qu'il y a derrière. Il y a un salut que nous ne pouvons pas accomplir. Il y avait une promesse faite à Abraham dont nous ne pouvions pas bénéficier. Et il est venu accomplir tout cela pour nous. Et on arrive à la fin de cette idée-là. Donc, il est supérieur aux anges et il est devenu l'homme ultime. Je ne trouvais pas d'autre mot, mais l'homme type, l'homme que Dieu attend de voir sur terre, lui-même s'est incarné et a accompli pour nous ce que nous ne pouvions pas faire. D'accord ? C'est un survol très sommaire. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous comprenez l'articulation ? Ok ? Pour conclure, je vais répondre à la question de Pierre. Est-ce qu'il y a une distinction entre le Père et le Fils qui est établie d'ores et déjà? Vous savez qu'un des défis qu'il y a eu, c'était la question de la Trinité. Hein, quel est le lien entre le Père et le Fils? Qu'est-ce que ça veut dire que Christ soit le Fils? Qu'il soit engendré, engendré éternellement. C'est des choses où on se tire un petit peu la tête. Hein. Alors, premièrement, regardez le verset 5. Je vais vous le commenter sommairement. Première citation, le psaume 2, verset 7. Vous voyez ? Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? Alors, est-ce que vous voulez regarder rapidement dans le psaume 2, verset 7 ? Psaume 2, alors vous allez voir, c'est assez, on pourrait dire, gonflé de la part de l'auteur d'aller puiser dans le psaume 2, verset 7. C'est bon ? Alors, pourquoi ce tumulte ? Je commence à partir du verset 1. Parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils ? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc Dieu dit qu'il a consacré un roi pour lui. D'accord ? Un roi de la lignée de David, hein, probablement. Est-ce qu'il parle de David ? On ne sait pas. Et je publierai le décret. L'Éternel m'a dit... Alors là, on passe du coq à l'âne. Tout de suite, c'est plus la même personne qui parle. Ok ? L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Alors Dieu dit, je vais m'établir un roi. Et ce roi-là dit à Dieu, l'Éternel m'a dit, déclare aux gens, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Il se prend pour le fils de Dieu. C'est choquant quand même. Hein ? Deuxième citation. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et là, on est dans 2 Samuel, chapitre 7. Dans ce chapitre, nous sommes à un moment très particulier de l'histoire de la rédemption, parce que pour la première fois, il faut retenir ceci, c'est très important, pour la première fois, le roi va résider dans la même ville que le tabernacle, à Jérusalem. David était à Hébron avant, et quand Saül est mort, David a pu venir à Jérusalem, qui devait être la capitale, réunir les 12 tribus, et donc régner sur les 12 tribus à Jérusalem. Et donc David fait aussi venir la tente, hein, le tabernacle, c'était une tente qu'on démonte et qu'on remonte, un peu comme Keshua, où le peuple, version très très grande, où le peuple venait dans cette tente pour rencontrer Dieu et offrir les sacrifices. Et dans l'esprit de David, c'est impensable que lui règne depuis un temple, mais que Dieu soit dans une vieille tente. Et donc il veut construire un temple à Dieu, et il demande à Nathan, le prophète, son avis. Nathan dit oui, c'est une bonne idée. Et puis l'Éternel répond à Nathan et lui dit non, ce sera son fils qui construira pour moi un temple, pas David. Et il dit ces paroles que nous avons dans Hébreu, la citation de Hébreu, si vous voulez bien la lire. « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Donc il dit que le fils de David va devenir son fils. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre pour l'éclairage là-dessus, c'est le contexte. Pour nous, fils, ça veut dire moitié papa, moitié maman. D'accord, ADN de papa, ADN de maman, c'est génétique. D'accord ? Ça, c'est une conception du fils qui est propre à notre culture. À l'époque de l'Ancien Testament et de l'époque de Christ, même jusqu'avant la révolution industrielle, le fils d'eux était celui qui faisait comme son père. Comment on reconnaissait un fils ? Ah, toi, t'es carrossier ? Ah, ben, t'es le fils de tel carrossier, forcément. T'es vendeur de scie ? Ben oui, ben, tu fais comme ton père. Ici, dans la pièce, combien d'entre nous font le même travail que leur père ? Levez la main. Un. D'accord ? Ok, à l'époque du Nouveau Testament, du 1er siècle, c'est Don Carson qui donne ces chiffres, il dit que 95 à 90% des gens exerçaient le même travail que leur père. Le fils fait comme son père. D'accord ? Quand Jésus reprend, par exemple, les pharisiens, et qu'il leur dit, vous dites que vous êtes fils d'Abraham parce que vous êtes juif. Moi, je vous dis, vous êtes fils de qui ? De Satan. Est-ce qu'il veut dire que Satan a couché avec leur mère, littéralement ? Non. Il dit qu'ils sont fils de Satan parce qu'ils font comme Satan et qu'ils ne font pas comme Abraham. Ils n'ont pas la foi d'Abraham. Oui, il reprend très sévèrement par rapport à ça. D'accord ? Donc, je n'ai pas le temps de vous développer tous les exemples que l'on a, mais par exemple, dans Exode, chapitre 4, l'Éternel dit au Pharaon, « Israël est mon fils, mon premier-né, laisse-le aller, mon fils, hein, laisse-le aller pour qu'il me serve. » L'identité du fils n'était pas établie donc par la biologie, mais par la fonction. D'accord ? Il fait comme le père. Du coup, on comprend mieux ces deux citations. Ok ? Dieu, en le faisant roi, d'accord, quand il fait roi David, attend que David fasse comme lui, que David l'imite, parce que le roi était censé être le représentant de Dieu parmi son peuple. D'accord ? Et si tu fais comme ton père, qui est Dieu, et ben du coup, tu es mon fils. D'accord ? C'est par imitation. D'accord ? Pas par engendrement. Vous comprenez ? Et en 2 Samuel 7, cette promesse est faite à qui ? Qui sera le fils de David ? Ça, Salomon. D'accord ? Donc il parle bien de Salomon. Ok, je serai pour lui un père et tu seras pour moi un fils. Dieu fait cette promesse à David que dans sa lignée, il y aura un fils qui régnera. En fait, il aura un trône de génération en génération. Et comme le dit si facilement Carson, il explique qu'il y a deux façons de comprendre cette promesse davidique. Soit il y aura un descendant direct de David toujours sur le trône de Jérusalem. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui ? Non. Soit il y aura un roi qui régnera éternellement. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Il dit que le fils de Salomon, en fait son fils, hein, Salomon, devra donc faire comme le père. Il devra l'imiter pleinement. Et dans la vie de Salomon, on voit que sa sagesse est intimement liée à la demande de la sagesse aussi, liée à la construction du temple et à la dédicace du temple. D'accord ? Donc le fils de David est lié au temple où Dieu vient résider pour rencontrer son peuple. D'accord ? Dieu vient rencontrer son peuple par le fils de David qui fait le temple. Et ultimement, qui est le fils de David ? C'est Jésus. Et de la lignée de David, on tire dans la Genèse, dans la lignée de David, la venue de Jésus-Christ. Je vous ai perdu ou pas ? Non, je ne vous ai pas perdu. Un peu quand même. Oui. Voilà, on arrive à la fin de cette première section. La première partie était vraiment introductive. Pour la prochaine fois, mercredi soir, là, nous viendrons en particulier sur Melchisédek. D'accord ? Faire le lien sur ce fameux Melchisédek et pour voir comment est-ce que Jésus est ce prêtre parfait.